Chapitre 2. En janvier 1826, au milieu d'une fête, quand le Havre tout entier désignait Charles Mignon pour son député, trois lettres venues de New York, de Paris et de Londres furent chacune comme un coup de marteau sur le palais de verre de la prospérité. En 10 minutes, la ruine avait fondu de ses ailes de vautour sur cet inouï bonheur, comme le froid sur la Grande Armée en 1812. En une seule nuit, passé à faire des comptes avec Dumay, Charles Mignon prit son parti. Toutes les valeurs, sans en excepter les meubles, suffisaient à tout payer. « Le Havre, dit le colonel au lieutenant, ne me verra pas à pied. Dumay, je prends tes 60 000 francs à 6%. » « Ah, trois, mon colonel. »« Ah, rien, alors, dit Charles Mignon péremptoirement. Je te ferai ta part dans mes nouvelles affaires. Le modeste, qui n'est plus à moi, part demain. Le capitaine m'emmène. Toi, je te charge de ma femme et de ma fille. Je n'écrirai jamais. Pas de nouvelles, bonnes nouvelles. » Dumay ne demanda rien à son patron. Il ne lui fit pas de questions sur ses projets. « Je pense, dit-il à Latournelle d'un petit air entendu, que mon colonel a son plan fait. » Le lendemain, il accompagna au petit jour son patron sur le navire, le modeste partant pour Constantinople. Là, sur l'arrière du bâtiment, le breton dit au provençal : « Quels sont vos derniers ordres, mon colonel ?»« Qu'aucun homme n'approche du chalet, dit le père en retenant mal ses larmes. « Dumay, garde-moi mon dernier enfant, comme me le garderait un bouledogue. La mort, quiconque tenterait de débaucher ma seconde fille, elle ne craint rien, pas même l'échafaud, je l'y rejoindrai. » « Mon colonel, faites vos affaires en paix, je vous comprends. Vous retrouverez mademoiselle Modeste comme vous me la confiez, ou je serai mort. Vous connaissez mes deux chiens des Pyrénées. On n'arrivera pas à votre fille. » Pardon de vous dire tant de phrases. » Les deux militaires se jetèrent dans les bras l'un de l'autre comme deux hommes qui s'étaient appréciés en pleine Sibérie. Le jour même, le courrier du Havre contenait ce terrible, simple, énergique et honnête premier Havre. La maison Charles Mignon suspend ses paiements, mais les liquidateurs sous-signés prennent l'engagement de payer toutes les créances passives. On peut dès à présent escompter au tiers porteur les effets à terme. La vente des propriétés foncières couvre intégralement les comptes courants. Cet avis est donné pour l'honneur de la maison et pour empêcher tout ébranlement du crédit sur la place du Havre. M. Charles Mignon est parti ce matin sur le Modeste pour l'Asie mineure, ayant laissé le plein pouvoir à l'effet de réaliser toutes les valeurs, même immobilières. Dumay, liquidateur pour les comptes de banque, Latournelle, notaire, liquidateur pour les biens de ville et de campagne, Gobenheim, liquidateur pour les valeurs commerciales. Latournelle devait sa fortune à la bonté de M. Mignon, qui lui prêta 100 000 francs en 1817 pour acheter la plus belle étude du Havre. Ce pauvre homme, sans moyens pécuniaires, premier clerc depuis 10 ans, atteignait alors à l'âge de 40 ans et se voyait clerc pour le reste de ses jours. Il fut le seul dans tout le Havre dont le dévouement put se comparer à celui de Dumay, car Gobenheim profita de la liquidation pour continuer les relations et les affaires de M. Mignon, ce qui lui permit d'élever sa petite maison de banque. Pendant que des regrets unanimes se formulaient à la bourse sur le port dans toutes les maisons, quand le panégyrique d'un homme irréprochable, honorable et bienfaisant remplissait toutes les bouches, Latournelle et Dumay, soucieux et actifs, comme des fourmis, vendaient, réalisaient, payaient et liquidaient. Vilquin fit le généreux en achetant la villa, la maison de ville et la ferme. Aussi Latournelle profita-t-il de ce bon premier mouvement en arrachant un bon prix à Vilquin. On voulut visiter Madame et Mademoiselle Mignon, mais elles avaient obéi à Charles en se réfugiant au chalet, le matin même de son départ, qui lui fut caché dans le premier moment. Pour ne pas se laisser ébranler par leur douleur, Le courageux banquier avait embrassé sa femme et sa fille pendant leur sommeil. Il y eut 300 cartes mises à la porte de la maison Mignon. 15 jours après, l'oubli le plus profond, prophétisé par Charles, révélait à ces deux femmes la sagesse et la grandeur de la résolution ordonnée. Dumais fit représenter son maître à New York, à Londres et à Paris. Il suivit la liquidation des 3 maisons de banque auxquelles cette ruine était due, réalisa 500 000 francs de 1826 à 1828, le 8e de la fortune de Charles. Et selon des ordres écrits pendant la nuit du départ, il les envoya dans le commencement de l'année 1828 par la maison Mangenot à New York au compte de M. Mignon. Tout cela fut accompli militairement, excepté le prélèvement des 30 000 francs pour les besoins personnels de Madame et de Mademoiselle Mignon, que Charles avait recommandé de faire et que ne fit pas Dumais. Le Breton vendit sa maison de 20 000 francs et il les remit à Madame Mignon, en pensant que plus son colonel aurait des capitaux, plus promptement il reviendrait. Faute de 30 000 francs, quelquefois on périt, dit-il à la Tournelle, qui lui prit à sa valeur cette maison où les habitants du chalet trouvaient toujours un appartement. Tel fut, pour la célèbre maison Mignon du Havre, le résultat de la crise qui bouleversa de 1825 à 1826 les principales places de commerce et qui causa, si l'on se souvient de ce coup de vent, la ruine de plusieurs banquiers de Paris comme l'un dont l'un présidait le tribunal de commerce. On comprend alors que cette chute immense, couronnant un règne bourgeois de 10 années, put être le coup de la mort pour Bettina Warrenwood, qui se vit encore une fois séparée de son mari, sans rien savoir d'une destinée en apparence aussi périlleuse, aussi aventureuse que l'exil en Sibérie. Mais le mal qui l'entraînait vers la tombe est à ses chagrins visibles ce qu'est au chagrin ordinaire d'une famille l'enfant fatal qui la gruge et la dévore. La pierre infernale jetée au cœur de cette mère était une des pierres tumulaires du petit cimetière d'Ingouville, et sur laquelle on lit Bettina Caroline Mignon, morte à 22 ans, priée pour elle, 1827. Cette inscription est pour la jeune fille ce qu'une épitaphe est pour beaucoup de morts, la table des matières d'un livre inconnu. Le livre, le voici dans son abrégé terrible, qui peut expliquer le serment échangé dans les adieux du colonel et du lieutenant. Un jeune homme d'une charmante figure appelé Georges d'Estourny vint au Havre sous le vulgaire prétexte de voir la mer et il y vit Caroline Mignon. Un soi-disant élégant de Paris n'est jamais sans quelques recommandations. Il fut donc invité, par l'intermédiaire d'un ami des Mignon, à une fête donnée à Ingouville. Devenu très épris et de Caroline et de sa fortune, le Parisien entrevit une fin heureuse. En 3 mois, il accumula tous les moyens de séduction et enleva Caroline. Quand il a des filles, un père de famille ne doit pas plus laisser introduire un jeune homme chez lui sans le connaître que laisser traîner des livres ou des journaux sans les avoir lus. L'innocence des filles est comme le lait que font tourner un coup de tonnerre, un vénéneux parfum, un temps chaud, un rien, un souffle même. En lisant la lettre d'adieu de sa fille aînée, Charles Mignon fit partir aussitôt Madame Dumais pour Paris. La famille allégua la nécessité d'un voyage subitement ordonné par le médecin de la maison, qui trempa dans cette excuse nécessaire, mais sans pouvoir empêcher le Havre de causer sur cette absence. « Comment une jeune personne si forte, d'un teint espagnol à chevelure de gel, poitrinaire ?»« Mais oui, on dit qu'elle a commis une imprudence. »« Oh, oh !» s'écriait un vilquin. Elle est revenue en nage d'une partie de cheval et a bu à la glace, du moins voilà ce que dit le docteur Troussenard. Quand Madame Dumère en vint, les malheurs de la maison Mignon étaient consommés. Personne ne fit plus attention à l'absence de Caroline ni au retour de la femme du caissier. Au commencement de l'année 1827, les journaux retentirent du procès de Jean d'Estourny, condamné pour de constantes fraudes au jeu par la police correctionnelle. Ce jeune corsaire s'exila sans s'occuper de Mademoiselle Mignon, à qui la liquidation faite au Havre ôtait toute sa valeur. En peu de temps, Caroline apprit et son infâme abandon et la ruine de la maison paternelle. Revenue dans un état de maladie affreux et mortel, elle s'éteignit en peu de jours au chalet. Sa mort protégea du moins sa réputation. On crut assez généralement à la maladie alléguée par M. Mignon lors de sa fuite de sa fille et à l'ordonnance médicale qui dirigeait, disait-on, Mademoiselle Caroline d'Ossurnis. Jusqu'au dernier moment, la mère espéra conserver sa fille. Bettina fut sa préférence, comme Modeste était celle de Charles. Il y avait quelque chose de touchant dans ces deux élections. Bettina fut tout le portrait de Charles, comme Modeste est celui de sa mère. Chacun des deux époux continuait son amour dans son enfant. Caroline, fille de la Provence, teint de son père et cette belle chevelure noire comme l'aile d'un corbeau qu'on admire chez les femmes du Midi, et l'œil brun, fendu en amande, brillant comme une étoile, et le teint olivâtre et la peau dorée d'un fruit de velouté, et le pied cambré, cette taille espagnole qui fait craquer les basquines. Aussi le père et la mère étaient-ils fiers de la charmante opposition que présentaient les deux sœurs. Un diable et un ange, disait-on sans malice, quoi, que ce fût une prophétie. Après avoir pleuré pendant un mois dans sa chambre où elle voulut rester seule sans voir personne, la pauvre Allemande en sortit les yeux malades. Avant de perdre la vue, elle était allée, malgré tous ses amis, contempler la tombe de Caroline. Cette dernière image resta colorée dans ses ténèbres, comme le spectre rouge du dernier objet vu brille encore après qu'on a fermé les yeux par un grand jour. Après cet affreux, ce double malheur, Modeste, devenue fille unique, sans que son père le sût, rendit Dumais non pas plus dévoué, mais plus craintif que par le passé. Madame Dumais, folle de Modeste, comme toutes les femmes privées d'enfants, l'accabla de sa maternité d'occasion, sans cependant méconnaître les ordres de son mari, qui se défiait des amitiés féminines. La consigne était nette. Si jamais un homme de quelque âge, de quelque rang que ce soit, avait dit Dumais, parle Modeste, la lorgne lui fait les yeux doux. « Oh, c'est un homme mort, je lui brûle la cervelle et je vais me mettre à la disposition du procureur du roi. Ma mort le sauvera, la sauvera peut-être. Si tu ne veux pas me voir couper le cou, remplace-moi bien auprès d'elle pendant que je suis en ville. » Et depuis 3 ans, Dumais visitait ses armes tous les soirs. Il paraissait avoir mis de moitié dans son serment les deux chiens des Pyrénées, deux animaux d'une intelligence supérieure. L'un couchait à l'intérieur et l'autre était posté dans une petite cabane d'où il ne sortait pas et n'aboyait point. Mais l'heure où ces deux chiens auraient remué leurs mâchoires sur un quidam eût été terrible. On peut maintenant deviner la vie menée au chalet par la mère et la fille. Monsieur et Madame Latournelle, souvent accompagnés de Gonin, venaient à peu près tous les soirs tenir compagnie à leurs amis et jouaient au whist. La conversation roulait sur les affaires du Havre, sur les petits événements de la vie de province. Entre 9 et 10 heures du soir, on se quittait. Modeste allait coucher sa mère, elles faisaient leurs prières ensemble, elles se répétaient leurs espérances, elles parlaient du voyageur chéri, et après avoir embrassé sa mère, la fille rentrait dans sa chambre à 10 heures. L'heure de même, Modeste levait sa mère avec les mêmes soins, les mêmes prières, les mêmes causeries. À la louange de Modeste, depuis le jour où la terrible infirmité vint ôter un sens à sa mère, Elle s'en fit la femme de chambre et déploya la même sollicitude à tout instant, sans se laisser, sans se lasser, sans y trouver de monotonie. Elle fut sublime d'affection à toute heure, d'une douceur rare chez les jeunes filles et bien appréciée par les témoins de cette tendresse. Aussi pour la famille Latournelle, pour monsieur et madame Dumay, Modeste était-elle au moral la perle que vous connaissez. Entre le déjeuner et le dîner, madame Mignon et madame Dumay faisaient pendant les jours de soleil une petite promenade jusque sur les bords de la mer, accompagnée de Modeste, car il fallait le secours de deux bras à la malheureuse aveugle. Un mois avant la scène au milieu de laquelle cette explication fait comme une parenthèse, madame Mignon avait tenu conseil avec ses seuls amis, madame Latournelle, le notaire et Dumay, pendant que madame Dumay amusait Modeste par une longue promenade. « Écoutez, mes amis, avait dit l'aveugle, ma fille aime, je le sens, je le vois. Une étrange révolution s'est accomplie en elle, je ne sais pas comment vous ne vous en êtes pas aperçu. »« Nom d'un petit homme, s'écria le lieutenant, ne m'interrompez pas, Dumay. Depuis deux mois, Modeste prend soin d'elle, comme si elle devait aller à un rendez-vous. Elle est devenue excessivement difficile pour sa chaussure. Elle veut faire valoir son pied, et elle gronde madame Gobel, la cordonnière. Il en est de même avec sa couturière. Et de certains jours, ma pauvre petite reste morne, attentive, comme si elle attendait quelqu'un. Sa voix a des intonations brèves, comme si, quand on l'interroge, on la contrariait dans son attente, dans ses calculs secrets. Puis, si ce quelqu'un attendu est venu, nom d'un petit bonhomme, asseyez-vous, Dumay, dit l'aveugle. Eh bien, Modeste est gaie, oh, elle n'est pas gaie pour vous. Vous ne saisissez pas ces nuances trop délicates pour des yeux occupés par le spectacle de la nature. Cette gaieté se trahit par les notes de sa voix, par des accents que je saisis et que j'explique. Modeste, au lieu de demeurer assise, songeuse, dépense une activité folle en mouvements désordonnés. Elle est heureuse, enfin. Il y a des actions de grâce jusque dans les idées qu'elle exprime. Ah, mes amis, je me connais au bonheur aussi bien qu'au malheur. Par le baiser que me donne ma pauvre Modeste, oh, je devine ce qui se passe en elle. Si elle a reçu ce qu'elle attend ou si elle est inquiète. Il y a bien des nuances dans les baisers, même dans ceux d'une fille innocente, car Modeste est l'innocence même, mais c'est comme une innocence instruite. Si je suis aveugle, ma tendresse est clairvoyante. Je vous engage à surveiller ma fille. Dumay est devenu féroce. Le notaire en homme qui veut trouver le mot d'une énigme, madame Latournelle en duègne trompé, madame Dumay qui partageait les craintes de son mari, se firent alors les espions de Modeste. Modeste ne fut pas quittée un instant. Dumay passa les nuits sous les fenêtres, caché dans son manteau comme un jaloux espagnol, mais il ne put, armé de sa sagacité de militaire, saisir aucun indice accusateur. À moins d'aimer les rossignols du parc Vilquin ou quelques princes lutins, Modeste n'avait pu voir personne, n'avait pu recevoir ni donner aucun signal. Madame Dumay, qui ne se coucha qu'après avoir vu Modeste endormie, plana sur les chemins du haut du chalet avec une attention égale à celle de son mari. Sous les regards de ces quatre argus, l'irréprochable enfant, dont les moindres mouvements furent étudiés, analysés, fut si bien acquitté de toute criminelle conversation que les amis taxèrent Madame Mignon de folie, de préoccupation, et Madame Latournelle, qui conduisait elle-même à l'église et qui en ramenait Modeste, fut chargée de dire à la mère qu'elle s'abusait sur sa fille. Modeste, fit-elle observer, est une jeune personne très exaltée, et elle se passionne pour les poésies de celui-ci, pour la prose de celui-là. Vous n'avez pas pu juger de l'impression qui a produite sur elle cette symphonie de bourreaux, Mos de Butcha, qui prêtait de l'esprit à fond perdu à la bienfaitrice, appelée le dernier jour d'un condamné, mais elle me paraissait folle avec ses admirations pour ce monsieur Hugo. Je ne sais pas où ces gens-là, Victor Hugo, Lamartine, Byron, sont ces gens-là pour les Madame Latournelle, vont prendre leurs idées. La petite m'a parlé de Scheindarol, je n'ai pas voulu en savoir le démenti. J'ai eu la simplicité de me mettre à lire cela pour pouvoir en raisonner avec elle. Je ne sais pas s'il faut attribuer cet effet à la traduction, mais le cœur me tournait, les yeux me papillotaient, je n'ai pas pu continuer. Il y a là des comparaisons qui hurlent, des rochers qui s'évanouissent, les laves de la guerre. Enfin, comme c'est d'un Anglais qui voyage, on doit s'attendre à des bizarreries, mais cela passe sa permission. On se croit en Espagne, et il vous met dans les nuages au-dessus des Alpes. Il fait parler les torrents, les étoiles. Et puis il y a trop de vierges, c'en est impatientant. Enfin, après les campagnes de Napoléon, nous avons assez des boulets enflammés, de l'air insonore qui roule de page en page. Et Modeste m'a dit que tout ce pathos venait du traducteur et qu'il fallait lire l'anglais. Ben, j'irai pas apprendre l'anglais pour leur Byron, quand je ne l'ai pas appris pour Exupère. Alors je préfère de beaucoup les romans de Ducray du Ménil à ces romans anglais. Moi, je suis trop normande pour m'amouracher de tout ce qui vient de l'étranger, et surtout de l'Angleterre. Madame Mignon, malgré son deuil éternel, ne put s'empêcher de sourire à l'idée de Madame Latournelle lisant Scheindarol. La sévère notaresse accepta ce sourire comme une approbation de ses doctrines. « Ainsi donc, vous prenez, ma chère Madame Mignon, les fantaisies de Modeste, les effets de ses lectures pour des amourettes. Elle a 20 ans. À cet âge, on aime soi-même. On se pare pour se voir parer. Moi, je mettais à feu ma pauvre petite sœur, un chapeau d'homme, et nous jouions au monsieur. Vous avez eu, vous, à Francfort, une jeunesse heureuse, mais soyons justes. Modeste est ici sans aucune distraction. Malgré la complaisance avec laquelle ses moindres désirs sont accueillis, elle se sait garder, et la vie qu'elle mène offrirait peu de plaisir à une jeune fille qui n'aurait pas trouvé comme elle des divertissements dans les livres. Allez, elle n'aime personne que vous. Tenez-vous pour très heureuse de ce qu'elle se passionne pour les corsaires de Lord Byron, pour les héros du roman de Walter Scott, pour vos Allemands, les comtes d'Egmont, Werther, Schiller et Autrehaer. Eh bien, madame, dit respectueusement Dumay, qui fut effrayé du silence de Madame Mignon. Modeste n'est pas seulement amoureuse, elle aime quelqu'un, répondit obstinément la mère. Madame, il s'agit de ma vie, et vous trouverez bon, non pas à cause de moi, mais de ma pauvre femme, de mon colonel et de vous, que je cherche à savoir qui de la mère ou du chien de garde se trompe. C'est vous, Dumay. Oh, si je pouvais regarder ma fille, s'écria la pauvre aveugle. Mais qui peut-elle aimer, dit Madame Latournelle. Quant à nous, je réponds de mon Exupère. Bon, ça ne saurait être Gobenheim, que depuis le départ du colonel, nous voyons à peine 9 heures par semaine, dit Dumay. D'ailleurs, il ne pense pas à Modeste, cet écu de sang sous fait homme. Son oncle Gobenheim Keller lui a dit « Deviens assez riche pour épouser une Keller. » Avec ce programme, il y a à craindre qu'il sache de quel sexe est Modeste. Voilà tout ce que nous voyons d'homme ici. Je ne compte pas Boucha, pauvre petit bossu. Je l'aime, il est votre Dumay, madame, dit-il à l'intéresse. Boucha sait très bien qu'un regard jeté sur Modeste lui vaudrait une trempée à la mode de Vannes. Non, pas une âme, notre communication avec nous. Madame Latournelle, qui, depuis votre malheur, vient chercher Modeste pour aller à l'église et l'en ramène, l'a bien observée ces jours-ci, durant la messe, et n'a rien vu de suspect autour d'elle. Enfin, s'il faut tout vous dire, j'ai ratissé moi-même les allées autour de la maison depuis un mois, et je les ai retrouvées le matin sans trace de pas. Les râteaux ne sont ni chers ni difficiles à manier, dit la fille de l'Allemagne. Et les chiens, s'écria Dumay. Bon, les amoureux savent leur trouver des filtres, répondit Madame Mignon. Mais ce serait un brûle à la cervelle si vous aviez raison, car je serais enfoncé, s'écria Dumay. Et pourquoi, Dumay? Demanda madame Mignon. Eh, madame, je ne soutiendrai pas le regard du colonel s'il ne me retrouvait pas sa fille, surtout maintenant qu'elle est unique, aussi pure et aussi vertueuse qu'elle l'était, quand sur le vaisseau il m'a dit. Que la peur de l'échafaud ne t'arrête pas, Dumay, quand il s'agira de l'honneur de Modeste. Ben, je vous reconnais bien là tous les deux, dit madame Mignon, pleine d'attendrissement. Je gagerai, mon salut éternel, que Modeste est pure comme elle l'était dans sa Barcelonnette, dit madame Dumay. Bon, je le saurai, dit Dumay, si madame la comtesse veut me permettre d'essayer d'un moyen, car les vieux troupiers s'y connaissent en stratagème. Je vous permets tout ce qui pourra nous éclairer sans nuire à notre dernier enfant. Mais comment feras-tu, Anne, dit madame Dumay, pour savoir le secret d'une jeune fille quand il est si bien gardé? Obéissez bien moi à tous, s'écria le lieutenant. J'ai besoin de tout le monde. Ce précis rapide, qui développait savamment et fournit tout un tableau de mœurs, combien de familles peuvent y reconnaître les événements de leur vie? Suffit à faire comprendre l'importance des petits détails donnés sur les êtres et les choses pendant cette soirée où le vieux militaire avait entrepris de lutter avec une jeune fille et de faire sortir du fond de ce cœur un amour observé par une mère aveugle. Une heure se passa dans un calme effrayant, interrompu par les phrases hiéroglyphiques des joueurs de whist. « Pique, à tout, coupe, avons-nous les honneurs, deux de tri, sic. » À huit, à qui a donné, phrase qui constitue aujourd'hui les grandes émotions de l'aristocratie européenne. Modeste travaillait sans s'étonner du silence gardé par sa mère. Le mouchoir de madame Mignon glissa de dessus son jupon à terre. Butcha se précipita pour le ramasser. Il se trouva près de Modeste et lui dit à l'oreille « Prenez garde !» en se relevant. Modeste leva sur le nain des yeux étonnés, dont les rayons, comme épointés, le remplirent d'une joie ineffable. Mais elle n'aime personne, se dit le pauvre bossu, qui se frotta les mains à s'arracher l'épiderme. En ce moment, Exupère se précipita dans le parterre, dans la maison, tomba dans le salon comme un ouragan et dit à l'oreille de Dumay : Voici le jeune homme. Dumay se leva, sauta sur ses pistolets et sortit. « Eh mon Dieu, et s'il le tue ?» s'écria madame Dumay qui fondit en larmes. « Mais que se passe-t-il donc ?» demanda Modeste en regardant ses amis d'un air candide et sans aucun effroi. « Mais il s'agit d'un jeune homme qui tourne autour du chalet !» s'écria madame Latournelle. « Eh bien, reprit Modeste, pourquoi donc Dumay le tuerait-il ? Sancta simplicitas, dit Butcha, qui contempla aussi fièrement son patron qu'Alexandre regarde à Babylone dans le tableau de Lebrun. Modeste alla vers la porte. Où vas-tu, Modeste? Demanda la mère. Mais tout préparé pour votre coucher, maman, répondit Modeste d'une voix aussi pure que le son d'un harmonica. Et elle quitta le salon. « Mais vous n'avez pas fait vos frais, dit le daim à Dunon, mais quand il rentra. Modeste et sage comme la Vierge de notre hôtel, s'écria madame Latournelle. Oh mon Dieu, de telles émotions me brisent, dit le caissier, je suis cependant bien fort. Je veux perdre 25 sous si je comprends un mot à tout ce que vous faites ce soir, dit Gobenheim. Vous m'avez l'air d'être fou. « Il s'agit cependant d'un trésor, » dit Butcha, qui se haussa sur la pointe de ses pieds pour arriver à l'oreille de Gobenheim. « Malheureusement, Dumay, j'ai la presque certitude de ce que je vous ai dit, » répéta la mère. « Ah, c'est maintenant à vous, madame, » dit Dumay d'une voix calme, « à nous prouver que nous avons tort. » En voyant qu'il ne s'agissait que de l'honneur de Modeste, Gobenheim prit son chapeau, salua, sortit, en emportant 10 sous et regardant tout nouveau Rubert comme impossible. « Exupérez-toi, Butcha, laissez-nous, » dit madame Latournelle. Allez, Oua, vous arriverez encore à temps pour voir une pièce. Je vous paye le spectacle. Mais quand Madame Mignon fut seule entre ses quatre amis, Madame Latournelle, après avoir regardé Dumay, qui, breton, comprenait l'entêtement de la mère, et son mari qui jouait avec les cartes, se crut autorisée à prendre la parole. Madame Mignon, voyons, quel fait décisif a frappé votre entendement? Eh, ma bonne amie, si vous étiez musicienne, vous auriez entendu déjà comme moi le langage de Modeste quand elle parle d'amour. Le piano des deux demoiselles Mignon se trouvait dans le peu de meubles à l'usage des femmes qui furent apportées de la maison de ville au chalet. Modeste avait conjuré quelquefois ses ennuis en étudiant sans maître. Née musicienne, elle jouait pour égayer sa mère. Elle chantait naturellement et répétait les airs allemands que sa mère lui apprenait. De ses leçons, de ses efforts, il en était résulté ce phénomène assez ordinaire chez les natures poussées par la vocation, que, sans le vouloir, Modeste composait, comme on peut composer sans connaître l'harmonie, des cantilènes purement mélodiques. La mélodie est à la musique ce que l'image et le sentiment sont à la poésie, une fleur qui peut s'épanouir spontanément. Aussi les peuples ont-ils vu des mélodies nationales avant l'invention de l'harmonie. La botanique est venue après les fleurs. Ainsi Modeste, sans rien avoir appris du métier de peintre, que ce qu'elle avait vu faire à sa sœur quand sa sœur lavait des aquarelles, devait rester charmée, abattue devant un tableau de Raphaël, du Titien, de Rubens, de Murillo, de Rembrandt, d'Albert Dürer et d'Holbein, c'est-à-dire devant le beau idéal de chaque pays. Or, depuis un mois surtout, Modeste se livrait à des chants de rossignol, à des tentatives dont le sens, dont la poésie avait éveillé l'attention de sa mère, assez surprise de voir Modeste acharnée à la composition, essayant des airs sur des paroles inconnues. Si vos soupçons n'ont pas d'autre base, dit Latournelle à Madame Mignon, je plains votre susceptibilité. Quand les jeunes filles de la Bretagne chantent, dit Dumay, redevenu sombre, la mort est bien près d'elles. Je vous ferai surprendre Modeste, improvisant, dit la mère, et vous verrez. Pauvre enfant, dit Madame Dumay, mais si elle savait nos inquiétudes, elle serait désespérée, nous dirait la vérité. Surtout en apprenant de quoi il s'agit pour Dumay. Demain, mes amis, je questionnerai ma fille, dit Madame Mignon, et peut-être obtiendrai-je plus par la tendresse que vous par la ruse. La comédie de la fille mal gardée se jouait-elle là comme partout et comme toujours, sans que ces honnêtes Bartholo, ces espions dévoués, ces chiens des Pyrénées si vigilants, eussent pu flairer, deviner et apercevoir l'amant, l'intrigue, la fumée du feu. Ceci n'était pas le résultat d'un défi entre les gardiens et une prisonnière, entre le despotisme du cachot et la liberté du détenu, mais l'éternelle répétition de la première scène jouée au lever du rideau de la création, Ève dans le paradis. Qui maintenant, de la mère ou du chien de garde, avait raison? Aucune des personnes qui entouraient Modeste ne pouvait comprendre ce cœur de jeune fille, car l'âme et le visage étaient en harmonie, croyez-le bien. Modeste avait transporté sa vie dans un monde aussi niais de nos jours que le fut celui de Christophe Colomb au XVIe siècle. Heureusement, elle se taisait, autrement elle eût paru folle. Expliquons avant tout l'influence du passé sur Modeste. Deux événements avaient à jamais formé l'âme comme ils avaient développé l'intelligence de cette jeune fille. Avertis par la catastrophe arrivée à Bettina, monsieur et madame Mignon résolurent, avant leur désastre, de marier Modeste. Et ils avaient fait choix du fils d'un riche banquier hambourgeois établi au Havre depuis 1815, leur obligé d'ailleurs. Ce jeune homme, nommé Francis Caltor, le dandy du Havre, doué de la beauté vulgaire dont se paient les bourgeois, ce que les Anglais appellent un mastoc, de bonnes grosses couleurs, de la chair, une membrure carrée, abandonna si bien sa fiancée au moment du désastre qu'il n'avait plus revu ni Modeste, ni Madame Mignon, ni les Dumay. La Tournelle, s'étant hasardée à questionner papa Jacob Althor à ce sujet, l'Allemand avait haussé les épaules en répondant « Bon, je ne sais pas ce que vous voulez dire. » Cette réponse, rapportée à Modeste afin de lui donner de l'expérience, fut une leçon d'autant mieux comprise que La Tournelle et Dumay firent des commentaires assez étendus sur cette ignoble trahison. Les deux filles de Charles Mignon, en enfants gâtés, montaient à cheval, avaient des chevaux, des gens, et jouissaient d'une liberté fatale. En se voyant à la tête d'un amoureux officiel, Modeste avait laissé Francisque lui baiser les mains, la prendre par la taille pour lui aider à monter à cheval. Elle accepta de lui des fleurs, de ses menus témoignages de tendresse qui encombrent toutes les cours faites à des prétendus. Elle lui avait brodé une bourse en croyant à ces espèces de liens, si forts pour les belles âmes, des fils d'araignée pour les Gobenheim, des Vilquin et les Althor. Au printemps qui suivit l'établissement de Madame et de Mademoiselle Mignon au chalet, Francisque Althor vint dîner chez les Vilquin. En voyant Modeste par-dessus le mur du Boulingrin, il détourna la tête. 6 semaines après, il épousa Mademoiselle Vilquin, l'aînée. Modeste, belle, jeune, de haute naissance, apprit ainsi qu'elle n'avait pas été pendant 3 mois que Mademoiselle Mignon. La pauvreté connue de Modeste fut donc une sentinelle qui défendit les approches du chalet, aussi bien que la prudente des Dumay que la vigilante du ménage La Tournelle. On ne parlait de Mademoiselle Mignon que pour l'insulter par des « Pauvre fille, oh, que deviendra-t-elle? Elle coiffera Sainte-Catherine. Quel sort, avoir vu tout le monde à ses pieds, avoir eu la chance d'épouser le fils Althor et se trouver sans personne qui veuille d'elle. Avoir connu la vie la plus luxueuse, ma chère, et tomber dans la misère. » Et qu'on ne croit pas que ces insultes fussent secrètes et seulement devinées par Modeste. Elle les écouta plus d'une fois, dites par des jeunes gens, par des jeunes personnes du Havre en promenade à Ingouville, et qui, sachant Madame et Mademoiselle Mignon logées au chalet, parlaient d'elle en passant devant cette jolie habitation. Quelques amis des Vilquin s'étonnaient souvent que ces deux femmes eussent voulu vivre au milieu des créations de leur ancienne splendeur. Modeste entendit souvent derrière ses persiennes fermées des insolences de ce genre. « Ben, je ne sais pas comment elles peuvent demander à demeurer là, » se disait-on, en tournant autour du Boulingrin, et peut-être pour aider les Vilquin à chasser leurs locataires. De quoi vivent-elles? Que peuvent-elles faire là? La vieille est devenue aveugle. Et Mademoiselle Mignon, est-elle restée jolie? Ah, elle n'a plus de chevaux. Était-elle fringante? En entendant ces farouches sottises de l'envie, qui s'élancent baveuses et hargneuses jusque sur le passé, bien des jeunes filles eussent senti leur sang les rougir jusqu'au front. D'autres eussent pleuré, quelques-unes auraient éprouvé des mouvements de rage. Mais Modeste souriait, comme on sourit au théâtre en entendant des acteurs. Sa fierté ne descendait pas jusqu'à la hauteur où ses paroles, parties d'en bas, arrivaient. L'autre événement fut plus grave encore que cette lâcheté mercantile. Bettina Caroline était morte entre les bras de Modeste, qui garda sa sœur avec le dévouement de l'adolescence, avec la curiosité d'une imagination vierge. Les deux sœurs, par le silence des nuits, échangèrent bien des confidences. De quel intérêt dramatique Bettina n'est-elle pas revêtue aux yeux de son innocente sœur? Bettina connaissait la passion par le malheur seulement. Elle mourait pour avoir aimé. Entre deux jeunes filles, tout homme, quelque scélérat qu'il soit, reste un amant. La passion, est-ce qu'il y a de vraiment absolu dans les choses humaines? Elle ne veut jamais avoir tort. Georges d'Estourny, joueur, débauché, coupable, se dessinait toujours dans le souvenir de ses deux filles comme le dandy parisien des fêtes du Havre, lorgné par toutes les femmes. Bettina crut l'enlever à la coquette Madame Vilquin, enfin comme l'amant heureux de Bettina. L'adoration d'une jeune fille est plus forte que toutes les préprobations sociales. La justice avait tort aux yeux de Bettina. Comment avoir pu condamner un jeune homme par qui elle s'était vue aimée pendant 6 mois, aimée à la passion dans la mystérieuse retraite où Georges la cacha dans Paris, pour y conserver, lui, sa liberté? Bettina mourante inocula donc l'amour à sa sœur et lui communiqua cette lèpre de l'âme. Ces deux filles causèrent toutes deux de ce grand drame de la passion que l'imagination agrandit encore. La morte emporta dans sa tombe la pureté de Modeste. Elle la laissa, sinon instruite, au moins dévorée de curiosité. Néanmoins, le remords avait enfoncé trop souvent ses dents aiguës au cœur de Bettina pour qu'elle épargnât les avis à sa sœur. Au milieu de ses aveux, jamais elle n'avait manqué de prêcher Modeste, de lui recommander une obéissance absolue à la famille. La veille de sa mort, elle supplia sa sœur de se souvenir de ce lit trempé de pleurs et de ne pas imiter une conduite que tant de souffrances expiaient à peine. Bettina s'accusa d'avoir attiré la foudre sur la famille et elle mourut au désespoir de n'avoir pas reçu le pardon de son père. Malgré les consolations de la religion attendries par tant de repentir, Bettina ne s'endormit pas sans crier au moment suprême « Mon père, mon père !» d'un ton de voix déchirant. « Ne donne pas ton cœur sans ta main !» dit Caroline à Modeste une heure avant sa mort. « Et surtout n'accueille aucun hommage sans l'aveu de notre mère ou de papa !» Ces paroles, si touchantes dans leur vérité textuelle, dites au milieu de l'agonie, avaient eu d'autant plus de retentissement dans l'intelligence de Modeste que Bettina lui dicta le plus solennel serment. Cette pauvre fille, clairvoyante comme un prophète, tira de dessous son chevet un anneau sur lequel elle avait fait graver au Havre par sa fidèle servante, Françoise Cochet, « Pense à Bettina, 1827, la place de quelques devises. » Quelques instants avant de rendre le dernier soupir, elle mit au doigt de sa sœur cette bague en la priant de l'y garder jusqu'à son mariage. Ce fut donc entre ces deux filles un étrange assemblage de remords poignants et de peintures naïves de la rapide saison à laquelle avait succédé si promptement les bises mortelles de l'abandon, mais où les pleurs, les regrets, les souvenirs furent toujours dominés par la terreur du mal. Et cependant, ce drame de la jeune fille séduite et revenant mourir d'une horrible maladie sous le toit d'une élégante misère, le désastre paternel, la lâcheté du gendre des Vilquin, la cécité produite par la douleur de sa mère, ne répondent encore qu'aux souffrances offertes par Modeste, et dont se contentent les Dumel et Latournelle, car aucun dévouement ne peut remplacer la mère. Cette vie monotone dans ce chalet coquet au milieu de ces belles fleurs cultivées par Dumay, ces habitudes à mouvements réguliers comme ceux d'une horloge, cette sagesse provinciale, ces parties de cartes auprès desquelles l'on tricotait, ce silence interrompu seulement par les mugissements de la mer aux équinoxes, cette tranquillité monastique cachait la vie la plus orageuse, la vie par les idées et la vie du monde spirituel. On s'étonne quelquefois des fautes commises par des jeunes filles, mais il n'existe pas alors près d'elles une mère aveugle pour frapper de son bâton sur un cœur vierge, creusé par les souterrains de la fantaisie. Les Dumay dormaient quand Modeste ouvrait sa fenêtre, en imaginant qu'il pouvait passer un homme, l'homme de ses rêves, le cavalier attendu, qui la pendrait en croupe en essuyant le feu de Dumay. Abattue par la mort de sa sœur, Modeste s'était jetée en des lectures continuelles à se rendre idiote. Élevée à partir de parler 2 langues, elle possédait aussi bien l'allemand que le français. puis elle et sa sœur avaient appris l'anglais par Madame Dumay. Modeste, peu surveillant ceci par des gens sans instruction, donna pour pâture à son âme les chefs-d'œuvre modernes des trois littératures anglaise, allemande et française. Lord Byron, Goethe, Schiller, Walter Scott, Hugo, Lamartine, Crabbe, Moore, les grands ouvrages du XVIIe et du XVIIIe siècle, l'histoire et le théâtre, le roman depuis Rabelais jusqu'à Manon Lescaut, et depuis les essais de Montaigne jusqu'à Diderot, depuis les Fabliaux jusqu'à la Nouvelle Héloïse, la pensée de trois pays meubla d'images confuses cette tête sublime de naïveté froide, de virginité contenue, d'où s'élança brillante, armée, sincère et forte, une admiration absolue pour le génie. Pour Modeste, un livre nouveau fut un grand événement. Heureuse d'un chef-d'œuvre à effrayer Madame Latournelle, ainsi qu'on l'a vu, contristée quand l'ouvrage ne lui ravageait pas le cœur. Un lyrisme intime bouillonna dans cette âme pleine des belles illusions de la jeunesse. Mais de cette vie flamboyante, aucune lueur n'arrivait à la surface. Elle échappait, et au lieutenant Dumay et à sa femme, comme au Latournelle. Mais les oreilles de la mère aveugle en entendirent les pétillements. Le dédain profond que Modeste conçut alors de tous les hommes ordinaires imprima bientôt à sa figure je ne sais quoi de fier, de sauvage, qui tempéra sa naïveté germanique et qui s'accorde d'ailleurs avec un détail de sa physionomie. Les racines de ses cheveux plantés en pointe au-dessus du front semblent continuer le léger sillon déjà creusé par la pensée entre les sourcils et rendent ainsi cette expression de sauvagerie peut-être un peu trop forte. La voix de cette charmante enfant qu'avant son départ Charles appelait sa petite babouche de Salomon à cause de son esprit, avait gagné la plus précieuse flexibilité à l'étude des trois langues. Et cet avantage est encore haussé par un timbre à la fois suave et frais qui frappe autant ce cœur que l'oreille. Si la mère ne pouvait voir l'espérance d'une haute destinée écrite sur le front, elle étudia les transitions de la puberté de l'âme dans les accents de cette voix amoureuse. À la période affamée de ses lectures, succéda chez Modeste le jeu de cette étrange faculté donnée aux imaginations vives de se faire acteur dans une vie arrangée comme dans un rêve, de se représenter les choses désirées avec une impression si mordante qu'elle touche à la réalité, de jouir enfin par la pensée, de dévorer tout jusqu'aux années de se marier, de se voir vieux, d'assister à son convoi comme Charles Quint, de jouer enfin en soi-même la comédie de la vie et, au besoin, celle de la mort. Modeste jouait, elle, la comédie de l'amour. Elle se supposait adorée à ses souhaits en passant par toutes les phases sociales. Devenue l'héroïne d'un roman noir, elle aimait soit le bourreau, soit quelques scélérats qui finissaient sur l'échafaud, ou comme sa sœur, un jeune élégant sans le sou, qui n'avait de démêlé qu'avec la sixième chambre. Elle se supposait courtisane et se moquait des hommes au milieu de fêtes continuelles, comme Ninon. Elle menait tour à tour la vie d'une aventurière ou celle d'une actrice applaudie, épuisant les hasards de Gil Blas et les triomphes des Pasta, des Malibran, des Florine. Lassée d'honneur, elle revenait à la vie réelle. Elle se mariait avec un notaire, elle mangeait le pain bis d'une vie honnête, elle se voyait en Madame Latournelle. Elle acceptait une existence pénible, elle supportait les tracas d'une fortune à faire. Puis elle recommençait les romans. Elle était aimée pour sa beauté. Le fils de pair de France, jeune homme excentrique, artiste, devinait son cœur et reconnaissait l'étoile que le génie des Stahl avait mise à son front. Enfin, son père revenait riche à millions. Autorisée par son expérience, elle soumettait ses amants à des épreuves où elle gardait son indépendance. Elle possédait un magnifique château, des gens, des voitures, tout ce que le luxe a de plus curieux, Et elle mystifiait ses prétendus jusqu'à ce qu'elle eût 40 ans, âge auquel elle prenait un parti. Cette édition des Mille et une nuits, tirée à un exemplaire, dura près d'une année et fit connaître à Modeste la satiété par la pensée. Elle tint trop souvent la vie dans le creux de sa main, elle se dit philosophiquement et avec trop d'amertume, avec trop de sérieux et trop souvent. Eh bien après, pour ne pas se prolonger jusqu'à la ceinture en ce profond dégoût dans lequel tombent les hommes de génie empressés de se retirer par les immenses travaux de l'œuvre à laquelle ils se vouent. N'était sa riche nature, sa jeunesse, Modeste serait allée dans un cloître. Cette satiété jeta cette fille encore trempée de grâce catholique dans l'amour du bien, dans l'infini du ciel. Elle conçut la charité comme occupation de la vie, mais elle rampa dans des tristesses mornes en ne se trouvant plus de pâture pour la fantaisie tapie en son cœur comme un insecte venimeux au fond d'un calice. Et elle cousait tranquillement des brassières pour les enfants des pauvres femmes. Et elle écoutait d'un air distrait les gronderies de M. Latournelle qui reprochait à M. Dumay de lui avoir coupé une 13e carte ou de lui avoir tiré son dernier atout. La foi poussa Modeste dans une singulière voie. Elle imagina qu'en devenant irréprochable, catholiquement parlant, elle arriverait à un tel état de sainteté que Dieu l'écouterait et accomplirait ses désirs. La foi, selon Jésus-Christ, peut transporter des montagnes. Le Sauveur a traîné son apôtre sur le lac de Tibériade. Mais moi, je ne demande à Dieu qu'à Marie, se dit-elle. C'est bien plus facile que d'aller se promener sur la mer. Elle jeûna tout un carême et resta sans commettre le moindre péché. Puis elle se dit qu'en sortant de l'église, tel jour, elle rencontrerait un beau jeune homme digne d'elle, que sa mère pourrait agréer et qui la suivrait amoureux fou. Le jour où elle avait assigné Dieu à cette fin d'avoir à lui envoyer un ange, elle fut suivie obstinément par un pauvre assez dégoûtant. Il pleuvait à verse, il ne trouvait pas un seul jeune homme dehors. Elle alla se promener sur le port, y voir débarquer des Anglais, mais ils amenaient tous des Anglaises, presque aussi belles que Modeste, qui n'aperçut pas le moindre Child Harold égaré. Dans ce temps-là, les pleurs la gagnaient quand elle s'asseyait en Marius sur les ruines de ses fantaisies. Un jour où elle avait cité Dieu pour la 3e fois, elle crut que l'élu de ses rêves était venu dans l'église. Elle contraignit Madame Latournelle à regarder à chaque pilier, imaginant qu'il se cachait par délicatesse. De ce coup, elle décida Dieu de toute sa puissance. Elle faisait souvent des conversations avec cet amant imaginaire, en inventant les demandes et les réponses, et elle lui donnait beaucoup d'esprit. L'excessive ambition de son cœur, cachée dans ses romans, fut donc la cause de cette sagesse tant admirée par les bonnes gens qui gardaient Modeste. Ils auraient pu lui amener beaucoup de Francis Caltor et de Vilquin fils, elle ne se serait pas baissée jusqu'à ses manants. Elle voulait purement et simplement un homme de génie. Le talent lui semblait peu de chose, de même qu'un avocat n'est rien pour la fille qui se rabat à un ambassadeur. Aussi ne désirait-elle la richesse que pour la jeter aux pieds de son idole. Le fond d'or sur lequel se détachèrent les figures de ses rêves était moins riche encore que son cœur plein des délicatesses de la femme, car sa pensée dominante fut de rendre heureux et riche un Tasse, un Milton, un Jean-Jacques Rousseau, un Murat, un Christophe Colomb. Les malheurs vulgaires émouvaient peu cette âme qui voulut éteindre les bûchers de ses martyrs, souvent ignorés de leur vivant. Modeste avait soif des souffrances innommées, des grandes douleurs de la pensée. Tantôt, elle composait les baumes, elle inventait les recherches, les musiques, les mille moyens par lesquels elle aurait calmé la féroce misanthropie de Jean-Jacques. Et tantôt, elle se supposait la femme de Lord Byron, et devinait presque son dédain du réel en se faisant fantasque autant que la poésie de Mumfred, Et ses doutes en en faisant un catholique. Modeste reprochait la mélancolie de Molière à toutes les femmes du XVIIe siècle. Mais comment n'accourt-il pas, se demandait-elle, vers chaque homme de génie, une femme aimante, riche, belle, qui se fasse son esclave, comme dans Lara, le page mystérieux. Elle avait, vous le voyez, bien compris le pianto que le poète anglais a chanté par le personnage de Guinard. Elle admirait beaucoup l'action de cette jeune Anglaise qui vint se proposer à Crébillon fils et qui l'épousa. L'histoire de Sterne et d'Élisa Draper fit sa vie et son bonheur pendant quelques mois. Devenue en idée, l'héroïne d'un roman pareil, plus d'une fois elle étudia le rôle sublime d'Élisa. L'admirable sensibilité, si gracieusement exprimée dans cette correspondance, mouilla ses yeux des larmes qui manquèrent, dit-on, dans les yeux du plus spirituel des auteurs anglais. Modeste vécut donc encore quelque temps par la compréhension non seulement des œuvres, mais encore du caractère de ses auteurs favoris. Goldsmith, l'auteur d'Obermann, Charles Nodier, Mathurin, les plus pauvres, les plus souffrants étaient ses dieux. Elle devinait leur douleur, elle s'irritait à des dénuements entremêlés de contemplations célestes. Elle y versait les trésors de son cœur. Elle se voyait l'auteur du bien-être matériel de ces artistes martyrs de leurs facultés. Cette noble complaisance, cette intuition des difficultés du travail, ce culte du talent, est une des plus rares fantaisies qui jamais ait volé dans les âmes de femmes. C'est d'abord comme un secret entre la femme et Dieu, car là, rien d'éclatant, rien de ce qui flatte la vanité, cet auxiliaire si puissant des actions en France. De cette troisième période d'idées naquit chez Modeste un violent désir de pénétrer au cœur d'une de ces existences anormales, de connaître les ressorts de la pensée et les malheurs intimes du génie, et ce qu'il veut et ce qu'il est. Ainsi, chez elle, les coups de tête de la fantaisie, les voyages de son âme dans le vrai vide, les pointes poussées dans les ténèbres de l'avenir, l'impatience de l'amour en bloc à porter sur un point, la noblesse de ses idées quant à la vie, le parti pris de souffrir dans une sphère élevée au lieu de barboter dans les marais d'une vie de province, comme avait fait sa mère, l'engagement qu'elle maintenait avec elle-même de ne pas faillir, de respecter le foyer paternel et de n'y apporter que de la joie, tout ce monde de sentiments se produisit enfin une forme. Modeste voulut être la compagne d'un poète, d'un artiste, d'un homme enfin supérieur à la foule des hommes. Mais elle voulut le choisir, ne lui donner son cœur, sa vie, son immense tendresse dégagée des ennuis de la passion, qu'après l'avoir soumis à une étude approfondie. Ce joli roman, elle commença par s'en jouir. La tranquillité la plus profonde régna dans son âme. Sa physionomie se colora doucement. Elle devint la belle et sublime image de l'Allemagne que vous avez vue, la gloire du chalet, l'orgueil de Madame Latournelle et du Mai, et Modeste eut alors une existence double. Elle accomplissait humblement et avec amour toutes les minuties de la vie vulgaire au chalet. Elle s'en servait comme d'un frein pour enserrer le poème de sa vie idéale, à l'instar des chartreux qui régularisent la vie matérielle et s'occupent pour laisser l'âme se développer dans la prière. Toutes les grandes intelligences s'astreignent à quelque travail mécanique afin de se rendre maître de la pensée. Spinoza dégrossissait ses vers à lunettes. Belle comptait les tuiles des toits. Montesquieu jardinait. Le corps ainsi dompté, l'âme déploie ses ailes en toute sécurité. Madame Mignon, qui lisait dans l'âme de sa fille, avait donc raison. Modeste aimait, et elle aimait de cet amour platonique, si rare, si peu compris, la première illusion des jeunes filles, le plus délicat de tous les sentiments, la friandise du cœur. Elle buvait à longs traits à la coupe de l'inconnu, de l'impossible, du rêve. Elle admirait l'oiseau bleu du paradis des jeunes filles, qui chante à distance et sur lequel la main ne peut jamais se poser, qui se laisse entrevoir et que le plomb d'aucun fusil n'atteint, dont les couleurs magiques, dont les pierreries scintillent, éblouissent les yeux, et qu'on ne revoit plus dès que la réalité, cette hideuse harpie, accompagnée de témoins de monsieur le maire, apparaît. Avoir de l'amour, toutes les poésies sans voir l'amant. Quelle suave débauche, quelle chimère à tout crin, à toutes ailes. Voici le futile et niais hasard qui décida de la vie de cette jeune fille.